Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce 73e épisode, Quentin, à peu près 45 ans, avait très à cœur de parler de taille au micro de On the Verge. De sa taille à lui, de 1m60, et de la fameuse taille de ce que vous savez. Avant d'enregistrer ce souriant et charismatique homme, Quentin et moi avons longuement parlé de la représentation de la virilité dans notre société et qui passe notamment par la taille du pénis. Cela m'a beaucoup intéressé, je dois vous dire, parce qu'il m'a mis en lumière beaucoup de choses et ça m'a donné envie de vous partager cette petite intro qui change de d'habitude. Nous sommes aujourd'hui loin de l'Antiquité où les statues grecques étaient façonnées dans une certaine idée de la perfection, encore de rigueur aujourd'hui. Musclés de la tête aux pieds, affichant des torses et abdos sculptés. Toutefois, aviez-vous remarqué que leur entrejambe présente un pénis de taille plutôt petite? L'historien australien Andrew Lear a fait des recherches sur le sujet. Pour prouver leur chasteté, synonyme d'intelligence à l'époque, les dieux devaient notamment être représentés avec un sexe au repos et tout petit. La représentation de gros pénis était réservée aux créatures monstrueuses, aux animaux, aux barbares ou aux esclaves, en d'autres termes à tous ceux qui faisaient preuve de luxure, qui est un péché, rappelons-le. Représenter de gros sexe sert finalement à pointer du doigt ceux qui s'abandonnent à la chair et cèdent aux pulsions animales, tandis que les petits sexes appartiennent à ceux qui, illustres, intelligents, adulés, sont beaux, comme des dieux. Si cet idéal du petit sexe n'a pas survécu à travers les siècles, la musculature de ces statues ressemble toujours au canon de beauté des hommes tels qu'ils sont vendus dans nos publicités modernes. Finalement, tout cela est une question de mode et d'injonction. Pour rappel, les pénis mesurent en moyenne 13 cm en érection, 9 cm au repos, et 80% des hommes possèdent un zizi, compris entre 11 et 15 cm. Bref, je vous laisse avec Quentin qui va vous raconter son histoire et qui espère de tout cœur, m'a-t-il dit, contribuer à une forme de réflexion et déconstruction sur ce sujet de taille. Bonne écoute. Salut Quentin.
Salut.
Quentin, tu as entre 45 et 50 ans.
Oui.
Tu vis en région parisienne.
Oui.
Et nous avons échangé il y a quelques temps et tu es en face de moi, je t'en remercie. Quentin, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité?
Alors, je m'en souviens parce que je peux le dater, parce que ça date de l'emménagement de mes parents en région parisienne. Mmh. Et je pense qu'on peut dire vers 3-4 ans. En fait, bah, je crois que j'ai déjà entendu quelqu'un dans un de tes épisodes qui disait ça. En fait, je me frottais au drap de mon lit.
Ouais.
Et j'ai un souvenir aussi très précis d'un livre. Ma mère travaillait dans l'édition, donc elle m'a ramené beaucoup de livres pour enfants. Et elle m'avait ramené le livre de la jungle avec des illustrations de Walt Disney. Et il y avait ce passage où le petit Mowgli était sur le ventre de Baloo. Et il y a les singes qui l'attrapent et qui le font virevolter en l'air.
Pour l'amener au roi Louis.
Au roi Louis.
Bien sûr.
Qui le soulève par sa culotte. Et je ne sais pas pourquoi cette image me perturbait beaucoup. Et pour moi, c'est mon premier émoi sexuel. Pas le gros ventre de Baloo, tu vois, les gros ours poilus, les singes qui, tu vois.
C'est extrêmement mignon.
Mais oui, je sais. Mais c'est vraiment, j'ai vraiment souvenir
là. Est-ce que tu aimes les gros hommes poilus?
Non, même pas.
Ah bah, tu vois ça.
Enfin, si, j'aime tous les hommes, mais pas particulièrement, quoi.
Parce que ça aurait été vraiment mignon que ça, tu cherches ton Baloo. Ça aurait été drôle. Tu vois,
okay. Mon copain est poilu, peut-être. Bref.
Donc ça, c'est vraiment le premier souvenir, ouais, qui cristallise un sentiment, en tout cas, que tu t'identifies, ouais, autour de l'érotisme.
Oui. Et l'autre souvenir que j'ai, c'est lié à une circoncision.
Ah oui.
Voilà. Donc, en fait, quand j'étais petit, j'avais des problèmes pour uriner.
Ok. Quand tu étais là, tu étais petit enfant, j'imagine.
Maternelle.
Ah oui.
Et donc, bah, mes parents m'emmènent voir le médecin de famille, ouais. Machin, et puis on décide de m'emmener dans un hôpital à Paris pour pratiquer la circoncision. J'ai un souvenir d'être dans une chambre avec un ado qui devait avoir 14-15 ans, qui hurlait la nuit de douleur, parce que je pense que lui, peut-être qu'il avait des érections la nuit.
Ah oui, c'est pas la même chose mal. Sur un petit garçon qu'un ado, oui, c'est voilà. Sûr.
Et j'ai un autre souvenir lié à ça, toujours à la maternelle, où un garçon s'était moqué de mon zizi, parce que j'avais des sortes de produits pour que ça cicatrise.
Ah, bien
quoi,
sûr, oui.
Et je me suis toujours posé deux questions. Mmh. Je me suis posé la question de savoir est-ce que mes pratiques, si tôt, on va dire, un peu...
De te frotter ?
De me frotter, étaient liées à la circoncision, enfin, au fait que peut-être tout d'un coup, mon gland était à l'air et que du coup, j'avais ressenti une sensation, quelque chose. Et l'autre question que je me suis posée, c'est pourquoi les chirurgiens avaient coupé aussi court. Enfin, je dis ça pour les parents, peut-être, qui veulent pratiquer ça sur leur enfant. C'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions parce qu'en fait, on va dans le vif du sujet direct.
Oui, c'est vrai, parce que juste...
Je suis désolée,
Non, mais tu ne le sois absolument pas. En fait, quand Quentin m'a envoyé sa proposition de participation, c'est ce dont il voulait parler, c'est-à-dire la taille. Mais la taille au sens... Large. Donc on va parler de chiffres si vous aimez savoir. Nous rentrons dans le vif du sujet.
Ça va être très précis.
On va être dans la précision, mais c'est hyper important et c'est ce que je te disais. Moi, je trouve ça super de lever un peu le tabou de la taille, la taille en général chez les hommes. C'est hyper important. Donc vas-y, rentre dans le vif du sujet.
Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que oui, j'ai jamais compris en fait pourquoi. La circoncision avait été aussi courte.
Alors justement, question, parce qu'il y a plusieurs circoncisions.
Ouais.
Tu sais, il y a une circoncision, on va dire, un peu de confort dans ces cas-là, où c'est juste une petite ouverture. Et il y a vraiment la circoncision, oui. Pardon, je fais le geste, hein, mais on coupe, vraiment on enlève le prépuce.
Voilà, moi on m'a enlevé le prépuce, alors que c'était une opération de confort. Je passe là-dessus, mais quelque part, moi, j'en ai jamais parlé avec mes parents, je leur ai jamais demandé, mais pourquoi vous m'avez fait ça ?
Tu leur as pas posé la question. Ils t'avaient expliqué quand t'étais petit, quand même, ce qui allait se passer ?
Ils m'avaient expliqué, mais. Tu vois, j'avais 3-4 ans, enfin, vraiment, c'était le dernier de mes soucis, je m'en fichais, enfin, tu vois. C'est vraiment à l'âge adulte où tu te poses la question de te dire, mais au fait, pourquoi la circoncision était si importante, quoi ? Donc voilà, ça, c'est mes premiers souvenirs. Et après, je pense que, pour aller vite, de l'enfance à l'adolescence, en fait, je crois que je n'ai jamais arrêté de me frotter, en fait, et d'avoir des pratiques. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait non-stop.
Mais en fait, tu te frottais, ça te faisait du bien, mais tu avais des érections ?
Je pense, oui. Oui. Quelque chose, en fait, qui ne m'a jamais quitté. Mm-hmm. Et donc, ce n'était pas des épisodes, quoi. C'est vraiment quelque chose que je faisais de façon très régulière. Et même pour moi, c'était un peu... c'était mon secret à moi. Mm-hmm. Moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui faisais ça, que j'étais le seul à savoir. Enfin,
le secret.
Vraiment.
Ah,
je pensais ça. Je me disais que j'en parlais pas. Bizarrement, je devais me dire qu'il ne fallait pas en parler.
On parlait de sexualité à la maison ?
Moi, je trouve que c'était... c'était les... On va dire, c'était les années 80. Oui, on en parlait. Moi, je trouve qu'on en parlait quand même. Et que mes parents n'avaient pas trop de problèmes à se balader à poil, tu vois, dans la salle de bain, etc. Je savais à quoi ressemblait une femme. Je savais à quoi ressemblait un monsieur. Mes parents m'emmenaient à la plage. Je me souviens, on allait souvent en vacances... à côté d'une plage naturiste, donc du coup, j'ai vu très vite des seins, des zizis, voilà, et puis ça me perturbait pas, j'étais pas plus...
Donc si t'avais des questions, il y avait des réponses à la maison ?
Oui, quand je posais des questions de comment on fait les bébés, qu'est-ce qu'il y a, monsieur et la dame, là, qu'est-ce qu'ils font dans le film, on me disait, ils s'aiment beaucoup, ils se font des bisous, voilà, j'avais des réponses qu'on donnait à un enfant.
Comment se passe après cette puberté ? Parce que tu m'as dit que c'était là.
Oui.
C'était le moment.
En fait, j'ai toujours été très petit.
Donc, combien mesures-tu aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je mesure 1m60. Mmh. Et j'ai toujours été petit et très malingre. Enfin, voilà,
ce qui n'est plus le cas, parce que tu es quand même
plus le cas.
Mais, très carré.
Ouais, j'étais vraiment une petite chose.
Petite
quoi.
Crevette.
Petite crevette.
C'est tes parents aussi sont des, on va dire, des petits modèles ?
Il y a beaucoup de gens petits dans ma famille. D'accord. Donc, je pense qu'il y a un petit patrimoine génétique. De... Et on va dire que toute mon enfance était très bisounours, je trouve. Mm-hmm. Tu vois, j'étais seul, j'avais pas beaucoup d'amis. Et j'étais un peu dans mon monde, quoi, dans un monde un peu de dessins animés, de, je sais pas, de choses que j'aimais, de jouets, de trucs. Et voilà, et je m'intéressais pas à la sexualité, même mm-hmm. si pourtant je me frottais le soir. Mm-hmm. C'était bizarre, mais c'était comme ça. Et quand je suis arrivé au collège, là, je crois que ça a été vraiment un tremblement de terre, enfin, tout ce
ouais,
que tu veux.
Ça, ton monde, ton petit monde...
C'est écroulé, ouais. A été chamboulé.
Violence du collège, violence des adolescents.
Je me suis retrouvé dans une classe avec des garçons qui avaient redoublé, qui faisaient déjà 1m80, qui avaient de la moustache. Et moi, j'étais une crevette, tu vois, d'un mètre 50, tout nana, avec mes histoires de dessins animés.
Ouais.
Et les premières discussions, parce que bon, tout de suite, les filles se mettent les filles, les garçons avec les garçons. Ouais. Les premières discussions des garçons, c'était « Ah, hier soir, on a regardé Emmanuel, machin,
donc
on s'est
Emmanuel
branlé. »
Donc Emmanuel, qui était un film porno ouais. très connu dans les années 80, ouais.
« On s'est branlé, nanana. »
Et toi, là, tu... Vie...
Et en fait, j'entends des mots, quoi. J'entends... Je suis désolé, je cache, j'entends branler, bander, jute, bite, éjaculation. Et je me dis, mais de quoi il parle ? De quoi il parle ? Et je ne comprends pas. Et en fait, je raccroche les wagons et je me dis, mais moi, en fait, ce que je fais quand je me frotte, en fait, c'est ça.
C'est un type de masturbation.
C'est un type de masturbation. Et donc, du coup, je me dis, merde, en fait, j'ai pas un secret, j'ai pas un super pouvoir. En fait, tous les garçons de la classe le font, tous les garçons du monde le font.
Différemment, mais...
Voilà, alors... différemment, mais voilà.
Donc, t'avais perdu ton petit pouvoir magique.
J'ai vraiment perdu mon petit monde rose, voilà, ouais. c'est écroulé. Mais en même temps, ça a ouvert une porte de curiosité énorme vers ces garçons.
Tu l'as dit... Dès qu'on a commencé, donc toi tu es homosexuel, tu es en couple avec un garçon. Tu le sais à ce moment-là que tu aimes déjà les garçons ?
Non, du tout. Bah, alors, toujours dans ces paradoxes, en fait, j'étais toujours mis à l'écart, en fait, on va dire des garçons de la classe et des garçons en général, parce que j'étais pas celui qui joue au foot. J'ai toujours trouvé les garçons bêtes. Mmh. Tu vois, par exemple, les garçons aimaient bien faire un croche-pied à un autre et puis se marrer ou baisser le pantalon d'un mec dans la cour et se marrer.
Oui, c'est toutes les micro-agressions, c'était pas cautionné.
Moi, je trouvais ça débile, méchant, cruel, tout ce que tu veux. Puis je trouvais pas ça drôle, surtout.
Mmh. Ça n'aide pas, en fait. Hein.
Non. Et donc, je pouvais pas me marrer avec les autres en disant « Ah, t'as vu, c'est drôle. » Non.
Et tu pouvais pas non plus trop intervenir tout seul contre tous, quoi.
Non. Donc, j'étais plutôt le mec discret. On m'emmerdait pas trop, bizarrement. Mm-hmm. J'étais pas une cible et tout ça. Mais on s'intéressait pas à moi, quoi. J'étais dans mon coin.
Et les filles, tu te reprochais peut-être des filles ?
Oui, par contre, j'avais des copines filles. Voilà. Okay. J'avais beaucoup de copines filles parce que déjà, leur jeu, leur discussion, c'était plus proche de mes centres d'intérêt, etc., que les mecs. Mm-hmm. Mais par contre, j'étais toujours un petit peu à l'écoute, toujours à l'affût de ce qui se racontait. Dans les vestiaires, voilà, en cours. Et quelque part, il s'est développé vraiment une curiosité vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que je les entendais parler et on va déballer tous les clichés des garçons de cet âge-là. Je les entendais parler, évidemment, de leur masturbation. Je les entendais parler de la taille de leur sexe. Je les entendais parler que... Ils se donnaient rendez-vous après les cours chez un copain qui avait des cassettes porno pour se branler tous ensemble. Alors du coup, ils commentaient la bite de l'un, la bite de l'autre et tout ça.
Vraiment, ouais.
Et moi, je commençais à rentrer dans une phase où je me questionnais sur moi-même.
Donc là, t'es milieu du collège ?
Là, on va dire, je ne sais pas, c'est à quel âge on rentre au collège, c'est...
On rentre vers 12, 11, 12 ans, 6e.
Ouais, donc 12, 13 ans, on va dire.
D'accord, donc tu commençais, ouais. Ta puberté commençait.
Oui.
Ouais.
Je me souviens que mes parents, peut-être que tu vas pouvoir m'aider, mais mes parents s'étaient renseignés, il y avait un traitement. Tu sais, pour la croissance,
ouais, pour la croissance
à cette époque-là.
Il y a Ben Nevers, je ne sais pas si tu connais ce youtubeur, créateur de contenu, qui a parlé à ce micro et qui effectivement a eu un retard de croissance jeune garçon. Et effectivement, il a pris ce traitement qui a boosté sa croissance également. Ouais.
Il y a eu un scandale après autour de ce traitement. Je sais que quand mes parents ont voulu se renseigner pour ce traitement, en gros, les médecins ont dit c'est pas possible parce qu'en fait, sa puberté est presque finie. Oh. C'est-à-dire que j'étais un enfant physiquement, mais voilà, on m'a dit la puberté est finie, on peut pas faire le traitement.
D'accord, il aurait fallu.
Les trucs, là, les trucs osseux de la main.
Oui, c'est ça, ils prennent les radios de l'avant-bras et c'est comme ça qu'on. Ouais, ouais. Qu'on détermine la taille, effectivement, oui.
Et si tu veux, si je peux décrire cette période, je te dirais comme ça, en fait, c'est que j'avais un peu l'impression de voir, en fait, les garçons qui m'entouraient. Alors, j'avais aussi des amis garçons, c'était des amis, enfin, des amis de mes parents qui avaient des
enfants
fils
de ton âge,
ou des filles, etc. Mais bon, je me focalisais beaucoup sur les garçons. Et je voyais les garçons... pousser, grandir, voilà,
prendre de la masse,
machin et tout.
Les poils, etc. Ouais.
En plus, bon, tu vas pas le croire, mais j'étais blond. Je te jure, c'est pas une blague, j'étais blond.
Parce que t'étais
j'étais
très brun.
Blondinet, oui.
Ah oui.
et en fait, je me voyais pas grandir, en fait.
Pas changer, ouais.
Et je commençais à développer, alors, on peut parler d'un complexe ou quelque chose comme ça, mais en fait une vraie anxiété et un vrai désespoir, en fait, quoi. Parce que je me souviens que par exemple, c'est très personnel, c'est bizarre de raconter ça, j'avais un cahier où je me focalisais vraiment sur les garçons qui m'entouraient et je notais comme des fiches d'identité, tu vois, de combien ils mesuraient, de combien j'avais entendu que leur sexe était de en taille, machin, je faisais des trucs. Et vraiment, enfin, limite, tu vois, je suis pas croyant, mais genre, je priais pour qu'il y ait le bon Dieu de la puberté qui vienne me changer.
Et tu sentais que ça allait arriver? Tu sentais que ça n'arriverait pas? Comment tu te positionnais au fond de toi?
Au bout d'un moment, je me suis dit que ça n'arriverait pas.
Ok.
Tu vois, mais j'ai vraiment... Ouais, j'en ai vraiment souffert. Enfin, j'ai vraiment espéré, tu vois, cette croissance et tout, qui n'arrivait pas. Et surtout, bon, ça, je l'ai su après, mais je pense que en même temps, j'avais une forme de, d'attirance en fait pour ces garçons qui devenaient des hommes, quoi.
Bien sûr. Et du coup, ça devait aussi créer quelque chose chez toi d'un peu, une attirance particulière.
Ouais. Et donc, on va dire que ma taille en hauteur était un problème, mais je commençais aussi à me poser des questions sur la taille de mon sexe, quoi.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que, alors, après, j'entendais les garçons se vanter, donc bon, voilà. Mais je commençais à avoir accès à quelques petites choses. Alors, j'avais retrouvé des vieux... je crois que c'était des romans photos porno de mon père des années 70. C'était
un peu érotique, machin.
Les mecs à moustache et tout.
les poils n'étaient pas un sujet à cette époque. Vraiment, les gens adoraient ça.
Ouais. Je commençais vraiment à me poser des sérieuses questions. J'ai des souvenirs à cette période-là au collège, en colonie de vacances. Mes parents m'ont envoyé en colonie. Et à un moment, les garçons s'étaient masturbés sous la tente.
Mmh.
Et j'en ai pas perdu une miette parce que je voulais voir.
Bien sûr.
Et donc, j'ai vu et je me suis dit, ah ouais.
C'est la première fois que tu voyais un sexe d'adolescent.
En vrai.
En vrai.
Ouais.
Et là, tu t'es dit, ah.
Oui.
Pas trop pareil.
Pas trop pareil.
T'en parles à quelqu'un?
Non, à personne.
Ok.
Personne.
Moi, c'est ça qui me rend toujours hyper triste, c'est pas le mot, mais... En tout cas, qui m'émeut beaucoup, c'est la solitude dans laquelle on est.
Ouais, c'était un peu, j'avais un peu l'impression, en fait, soit de regarder quelque chose dont j'étais extérieur,
Ah
soit dont
ouais,
j'étais exclu.
d'être complètement spectateur de
C'est
ça.
ça. Et en fait, je voyais bah, les autres, enfin, tu vois, se développer. Et puis, moi, je me disais, et moi, et moi, et moi. Et puis, ça n'arrivait pas.
Tu n'en as pas parlé à tes parents?
Bah, mais le problème, bon, là, c'est très personnel, mais ça a toujours été un peu ambivalent. C'est-à-dire que, après, mon père, lui, par contre, a pu être très dur. Des fois, je sentais dans son regard, on peut le dire, hein, de la déception.
Que tu sois pas ce grand gars
Ouais, ouais.
viril, enfin
Ouais.
même si tu, enfin qu'est-ce que la virilité, mais en tout cas que tu sois pas voilà cette incarnation-là, ça le.
Ouais, une fois, mon père me regardait. Alors, je sais pas ce que j'étais en train de faire. Enfin, je le surprends comme ça, en train de me regarder. Avec un petit sourire, je le regarde, je me dis, tiens, peut-être qu'il va me dire quelque chose ou je sais pas quoi. Il me regarde, puis il fait, c'est dommage que tu fasses pas 10 cm de plus. Voilà.
Waouh, c'est dur.
Et bon, après, voilà, j'ai pas manqué d'amour et tout ça, mais enfin, c'était très étrange en fait. C'est comme si je sentais qu'il y avait un problème. Et on n'en parlait pas. Et puis.
Tu penses que c'était sa déception ou c'était peut-être quelque chose comme il se rendait compte que ce serait moins facile pour toi d'être un peu plus petit que
Il
la
y a ça
moyenne?
aussi. Après, ça aussi, c'est quelque
T'en as
chose
jamais parlé?
de. Non, franchement, on n'en parle pas.
Parce que là, quand ils sont allés voir le médecin pour justement t'accompagner dans ta puberté, c'était de leur fait.
Oui, bien sûr.
C'est ça, c'est pas
Ouais.
toi qui leur as
Non, c'est pas
dit.
moi.
Ok.
À la rigueur, on pourrait parler du fait que tous les parents, je pense quels qu'ils soient, quand tu leur parles, enfin, d'ailleurs, c'est des discussions que j'ai entendues ré encore récemment, tu vois, de gens de mon entourage. Ils viennent d'avoir un enfant ou ils ont des enfants. Ce qu'ils souhaitent, quand c'est un garçon, c'est j'espère qu'il va être grand, j'espère qu'il va être comme ci, j'espère qu'il va être comme ça. Donc, en fait, c'est un truc qui semble aller de soi, ou je sais pas, enfin, tu vois. Et t'as envie de dire, bah peu importe en fait, si bah, s'il est pas grand, tu fais quoi? Tu vas.
Je suis d'accord avec toi.
Enfin,
Mais c'est vrai qu'on on voit encore des vêtements que, tu sais, de cadeaux de naissance, fort comme papa, belle comme
Oui.
maman. Non, n'offrez pas ça. N'offrez pas ces injonctions.
J'irais même plus loin. Pareil, des choses que j'ai entendues, des parents qui mesurent la taille du zizi des bébés parce qu'ils trouvent qu'il est trop petit ou qui s'inquiètent. Qu'il soit pas normal ou comme le papa. Et tu dis, mais enfin, ça n'a aucun sens de faire ça. Tu vas pas mesurer un sexe d'un nourrisson. Enfin, c'est
Bien
complètement
sûr.
débile. Donc, qu'on va pas forcément verbaliser, mais qui sont tellement ancrés
Bien sûr.
dans la culture
Culture, bien sûr,
commune,
bien sûr.
etc. Au final, tout le monde le pense plus ou moins. Tu vois, où tout le
Bien
monde
sûr.
a ce type de pensée. Et du coup, toi, quand tu n'es pas dans la norme, même si ça se voit pas, etc., en fait, tu sens que de toute façon, tu es quelque part exclu par ce que tu entends, par ce que tu vois, etc.
Comprends.
Bon, voilà. Après, si tu veux, enfin, comment dire, la période collège se passe, et puis après, les choses vont un peu mieux, donc la suite
Plus joyeuse.
s'arrange.
tu arrives au lycée, du coup.
Ouais.
Comment ça se passe? Donc, parce que tu vas commencer aussi, j'imagine, à avoir quelques crushs, tu vois, t'amouracher peut-être. Comment ça se passe pour toi?
Bah, en fait, autant, si tu veux, j'ai l'impression que voilà, j'ai eu cette enfance très ouatée, très bisounours. La période collège, c'était un massacre.
Déflagration,
Tu vois, genre vraiment, on te prend,
ouais.
paf, on te jette par terre et tout.
T'es très fort en mime, en tout
Et
cas.
le lycée, en fait, c'était une renaissance.
Tu reprends plus ta place.
Ouais.
Parce que quoi? Parce que tu fais peut-être des choses qui t'intéressent plus.
Je fais des choses qui m'intéressent très fortement.
Ouais, souvent, c'est ce qui se passe, hein.
Je fais des études artistiques. Je me retrouve avec des gens qui ont les mêmes passions, on parle des mêmes choses, on a les mêmes goûts, ou en tout cas, on aime se faire découvrir ce qu'aiment les uns les autres. Et en fait, je me fais une bande d'amis, vraiment ah, garçon et fille. Et c'est la première fois que j'ai vraiment une bande d'amis voilà, avec qui je m'entends bien.
Donc socialement, tu es dedans, quoi.
Ouais, je sens, alors je peux raconter une petite anecdote. Au lycée, en fait, le cours de sport, il y avait une piscine à côté, donc on avait des cours de natation. Et donc un jour, bah, moi, bah, je me fous hein, voilà, en maillot de bain. Et donc tu as toujours ce moment de gênance, tu vois, tu te retrouves en slip. Un slip de bain devant tout le monde. Et je vois les filles, tu vois, qui gloussent.
Ah, qui commencent à glousser. Ah, en te regardant.
Bon, ouais. Et puis, bon, on fait le cours de natation. Puis après, elles viennent me voir et tout. Et puis, toujours en gloussant. Puis elles me disent, ah bah dis donc, on t'a vu de loin. Et puis, genre, on était étonnés. Ah, t'es vachement bien foutu, machin et tout. Et je commence à prendre conscience que même si je suis petit, je suis peut-être pas si moche que ça.
Ah, parce que t'avais associé la taille de ton corps à ce que...
Bah, disons que j'avais associé la taille de mon corps au fait que j'intéresserais peut-être personne.
Ok.
Et là, en fait, c'est la première fois qu'on me disait, mais non, en fait, t'es mignon. Voilà, on me dit, t'as des épaules carrées,
ah,
voilà, des trucs, des petits pecs, des machins. Et puis, voilà, ça me fait tilt de me dire, mais peut-être que je peux plaire. Malgré le fait que je sois petit, etc. Au bout d'un moment, il y a une fille de ma classe qui, voilà, avec qui je m'entends très bien, on parle beaucoup, et donc qui me demande si elle... Enfin, pas si elle veut, mais...
Si tu veux sortir avec
si
elle.
Si je veux sortir avec elle. Et donc je dis oui.
Waouh.
Voilà. Et donc c'est très... c'est très mignon, quoi. Enfin, voilà.
Ça change ton premier baiser.
Voilà, on fait des... Mais très vite, quand même, on parle de passer à des choses plus sérieuses.
T'es en seconde, la première ?
Tout début de la seconde. Quoi. Ça, c'est
fait ah oui, t'as 15-16 ans, quoi. T'es...
Très vite,
ah
très oui. Vite, ouais. Et donc, on décide d'avoir notre premier rapport sexuel, quoi.
Ok.
Donc, elle est vierge, moi aussi.
Oui, toi, t'es pas encore.
Voilà. Et donc, on le fait.
Et alors, comment ça se passe ?
Bah, moi, en fait, je pense que, quelque part, je pense que c'est un truc de... Je sais pas si c'est pareil pour les filles. En fait, j'ai l'impression que quand t'es à un âge comme ça, n'importe qui pourrait te toucher dès l'instant qu'on te touche. Non, mais c'est... Tu vois, c'est vraiment ça. Et en fait, quelqu'un me touchait, quelqu'un s'intéressait à moi, quelqu'un... Et me touchait dans des zones...
Oui, voilà. Oui, où personne ne te touche normalement.
Et en fait, moi, ça me suffisait à me rendre heureux, quoi.
Voilà. Bien sûr.
Et en fait, ça se passe plutôt bien.
Donc, il y a pénétration.
Il y a pénétration, il y a saignement. Sauf que moi, je me rends compte que ça ne me plaît pas.
Ça ne te plaît pas ?
Enfin, les filles.
Ouais. Tu lui dis ?
Je vais lui dire. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, en fait.
C'est-à-dire pas évident.
Si tu veux, j'ai parlé avec suffisamment de garçons pour savoir que, voilà, par exemple, ils sont obsédés par, je sais pas, les fesses des filles, les seins des filles et tout ça. Et genre, moi, j'ai accès à sa poitrine, mais ça me provoque aucune émotion. C'est mécanique, je bande et tout ça, mais genre je me dis pas waouh. Et il se trouve que pendant que je sors avec cette fille, il y a un garçon de ma classe qui est le bad boy du lycée, je te jure. C'est un mec qui était punk, anarchiste.
Wow.
Donc il y avait toujours, tu sais, les trucs avec le truc anarchiste. Les
grosses docks,
avec le jean retroussé, les bretelles. Et un beau mec, quoi. Enfin, grand, genre 1m80, je dirais, blond. Je ne sais pas pourquoi ce garçon s'était pris d'amitié pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais parce qu'il sortait aussi avec une fille du lycée. Et en fait, il commence à me faire des choses. C'est-à-dire que, par exemple, on est en cours, guide ma main, puis il la met sur sa cuisse ou sur son paquet. Et moi, évidemment, comme une jouvencelle, je rougis, tu vois, machin et tout. Et lui, il se marre, tu vois. Genre...
Mais il le faisait qu'avec toi ?
Qu'avec moi.
Donc, il sentait...
Je sais pas. Soit il a vu quelque chose
que, tu ne...
que je
pas
ne voyais
encore.
Pas. Soit... Il était peut-être attiré par moi, j'en sais rien.
Très probablement.
Donc voilà, donc si tu veux, c'était par exemple, on allait justement dans les vestiaires après le sport. Genre, il me disait, viens voir et machin et tout. Genre, il me plaquait contre le mur. Et genre là, tu sais, il s'approchait comme s'il allait me rouler...
La galoche de l'année.
La galoche de la vie avec des yeux comme ça. Puis après, ah, c'est une blague, je me marre et machin. Il se barrait.
Ah, ça devait te faire monter en...
Ouais.
Et là, pour le coup, contrairement au sein de la jeune fille, ça te faisait un truc.
Ouais.
Là, il y avait un vrai...
Et en même temps, j'étais un peu cruche, quoi. Enfin, bon,
qui ne l'est pas à cet âge-là.
Moi, j'étais très cruche. Donc, en fait, je pense que je devais juste rougir et puis, tu vois, machin, ouais. Tout. Je ne savais pas quoi faire.
Mais tu ne le repoussais pas. Donc, lui, il voyait peut-être il voyait aussi, ça te...
Je pense que je n'avais pas une réaction comme un mec, tu vois, qui aurait dit « arrête tes conneries » ou je sais pas quoi, ou machin et tout. En fait, moi, j'étais juste là, pétrifié, tu vois, avec le rose aux joues et tout. Et donc là, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche et que je suis peut-être gay.
Tu avais entendu parler d'homosexualité ?
Pour être très honnête, à part la cage aux folles, un peu l'image que j'en avais. Alors, je mens un peu parce que, si tu veux, c'est plutôt un voyage intérieur que tu fais. Mm-hmm. Donc forcément, j'ai une curiosité. Donc j'ai commencé à regarder des choses, je me souviens de films. Alors, le problème des films que je voyais, genre Maurice ou My Beautiful Laundrette et tout ça, ou My Own Private Idaho, c'est que ça se termine toujours mal.
Oui, c'est vrai que
ils finissent toujours malheureux ou morts, ou morts du sida, ou frappés à mort.
Enfin, il n'y a pas des grandes perspectives de bonheur derrière, c'est vrai.
Je me dis, ça existe. Bah, en fait, je décide de tout faire d'un coup. En fait, je fais mon coming out.
Okay.
Je dis à ma copine, bah, en fait, c'est pas possible parce que je suis gay.
Donc ça, t'es au lycée, toujours en seconde.
Toujours en seconde. Je dis, j'aime le bad boy.
Le punk.
Et je lui écris une lettre enflammée en me disant, je t'aime, voilà. J'ai tout fait d'un coup.
Ah ouais, genre qui tout double, quoi.
Ouais.
Ok. Et comment réagit le bad boy ?
Bah, le bad boy, il est quand même très sympa. On prend un café ensemble. Il me dit que en gros il est très dévergondé, que voilà, il fait beaucoup de conneries, il sort beaucoup, il se drogue beaucoup, qu'il a déjà essayé des filles, qu'il a déjà essayé des garçons, mais que voilà, il est désolé s'il m'a donné de faux espoirs, mais que il m'aime trop pour me faire ça, en gros, c'est ça le truc, pour jouer avec moi, quoi.
Plutôt smart, plutôt intelligent, enfin
oui,
pour cet âge-là, dans ce contexte-là, c'est quand même
ouais. Moi déjà, je me disais ah non, quoi, genre, vas-y, fais-moi mal, je m'en fous, quoi, tu vois. Moi, j'étais in love de lui,
bien
quoi,
sûr.
Vraiment.
Bah, bien
vraiment.
Sûr.
Donc, ouais.
Donc, le lycée, c'est que t'es, à ce moment-là, homosexuel.
Ouais.
Et à la maison ?
À la maison, je crois, je le fais peut-être
un peu plus tard.
Merde, seconde, première. En première.
Okay.
Ouais, j'attends un petit peu. Mes amis le savent et ils trouvent ça cool.
Ok.
Ils ont leurs copains gays, c'est génial d'être gay, c'est cool. On pose plein de questions.
Bien sûr. Machin.
Et donc voilà. Et ensuite, pendant cette période, j'ai deux petites expériences. Une fois complètement par hasard, je vais avec une copine à la fête de l'humain. Mm-hmm. On va voir des concerts. Et là, il y a un mec qui vient me parler. Il finit par me dire, dis donc, t'es mignon. Non, tu veux pas qu'on aille dans les fourrés. On va dans les fourrés.
Toi, tu penses aller chercher des champignons.
Non, je savais ce qu'il voulait. J'avais compris maintenant.
Ok, donc là, c'est vous embrasser. Vous allez un peu plus loin.
On s'embrasse. Je lui fais une fellation.
Première fois.
Ouais.
Et là, tu te dis, c'est ça.
Ah ouais, je me dis, c'est ça.
Ouais.
Puis il était beau et tout. Non, vraiment. Et deuxième expérience, beaucoup moins cool. À l'époque, il y avait Radio FG, fréquence
gay. Bien sûr.
Et le soir, il y avait des petites annonces gays.
C'est vrai.
Donc, les gens laissaient un numéro, il fallait appeler un numéro surtaxé, machin. Et il y a un mec qui se décrit, qui en gros, qui dit « j'ai 24 ans, je suis pas très grand, j'ai pas beaucoup d'expérience, et machin. » Et moi, je me dis « bah, c'est pour moi. »
Je prends.
Et là, j'arrive et patatras, en fait, le mec, il en a 40. Et il y a un petit peu des posters pédopornographiques dans son appartement.
Ah oui. Ah, vous étiez rendez-vous dans l'appartement directement ?
Moi, j'y suis allé, ouais. Oh ouais. Et ça m'a marqué, tu vois,
je
parce
comprends.
Que je me souviens vraiment de tout, de l'appartement, je me souviens de sa tête et tout.
Il se passe quelque chose ?
Disons que le truc, c'est que je sais pas pourquoi, mais en fait, je n'avais pas la présence d'esprit, je n'avais pas la maturité, en fait, pour dire non, je m'en vais, non, ça va pas le faire, je m'en vais faire demi-tour. Et donc, je me suis un peu laissé faire. Bon, après, ça s'est limité à une fellation.
Donc, il a pratiqué sur toi ?
Ouais.
OK.
Mais je me souviens qu'à la fin, il voulait pas que je parte. Donc, il me tenait dans ses bras. Tu vois, il voulait me câliner et tout. Et genre, il touchait mon avant-bras comme ça. Il fait... c'est dommage quand même que t'aies autant de poils. Berk.
Ouais, méga berk.
Et là, je me souviens que je m'étais vraiment senti mal, quoi.
Ouais.
vraiment senti ouais. mal. Et donc voilà, ça c'était les deux expériences en fait pendant tout le lycée.
Okay.
Ça a été mes deux seules expériences.
Ouais, enfin, c'est quand même un mec de plus de 40 ans qui, du coup, a... enfin, t'étais mineur quoi, c'était quand même ouais. super grave.
Pour moi, c'est le mot est fort, mais je pense que c'est une forme de prédation parce que.
Bien sûr!
Le mec ment, enfin, il savait très bien ce qu'il faisait.
C'est
en
pas
fait,
du
voilà.
tout fort, moi, je ouais. pense que clairement. Ouais. On est sur un agresseur mmh. prédateur. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est notre époque, tu vois. Je te ouais. parle de ça, c'est les années 90. Mmh. Tu vois, j'aurais jamais pensé à porter plainte ou à le dénoncer.
Bien
parce
sûr.
Que, tu vois, peut-être que si on avait été chez lui, on aurait trouvé des choses. Parce que moi, je trouvais que son appartement était très suspect.
Hyper creepy, ouais.
Hyper creepy. Et à la fin, donc, j'obtiens mon bac. À l'obtention du bac, on fait une grosse soirée, une grosse teuf pour fêter le bac. Et une copine me dit, ça t'ennuie si le fameux bad boy punk vient. Et je dis, bah non. Et je sens qu'il me drague, enfin, voilà, qui
flirte avec toi.
Il flirte avec moi. Hein. C'est très romantique, on est dehors, on a fait un feu de camp. J'ai froid, il me met son blouson sur les épaules. Enfin, moi, j'étais genre...
Les gens ne voient pas, mais tu mimes tout, c'est trop mignon, moi j'adore.
Comme dans un film,
ouais,
tu
c'est
vois.
Vrai, on dirait.
On rentre dans la maison, parce que c'était dans une maison, la fête. Il n'y a plus de couchage, tout le monde est couché, machin et tout. Et donc forcément, on va se retrouver à dormir à côté l'un de l'autre. Et on s'endort. Alors que moi, évidemment, je ne dors pas, j'ai le cœur qui est tu vois, boum,
qui bat,
boum, 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 machin et tout. Et là, je sens sa main, etc. et tout. Et genre,
tes cheveux, donc tu as touché tes cheveux.
Je me retourne, on s'embrasse.
C'est lui qui t'embrasse ?
Ouais. Je le touche de partout.
Il est à toi, là ?
Il est à moi, j'ai son corps, je touche tout, machin, je touche sa queue. Et au bout d'un moment, il me dit faut que j'aille aux toilettes. Il va aux toilettes, et là, j'entends la porte d'entrée claquer. Il se barre.
Oh,
ça
wow.
s'est terminé comme ça.
Vous en avez reparlé ?
Non.
Mais t'es...
Et j'ai jamais revu de ma vie.
Jamais ?
Non.
Et t'as pas cherché à savoir après ?
Non.
S'il écoute, ce serait extraordinaire qu'il
ah,
nous
revienne. Je pense qu'il y a que lui qui peut comprendre Gavroche, si tu m'entends.
C'est un mot de code.
En fait, je sais pas s'il s'est dit que c'était pas son truc. Je sais pas s'il s'est dit que c'était peut-être pas moi. Je sais pas s'il s'est dit, merde, je suis encore en train de faire une connerie. Et que, comme il l'avait dit...
Ouais, il voulait pas te faire de mal.
Il voulait pas me faire de mal. Je ne saurais jamais.
C'est hyper romantique. Parce que je trouve que terminer ton lycée sur ce baiser, c'est hyper beau.
Quelque part, je l'avais un peu possédé.
Tu l'as eu
un
peu, ouais.
peu à moi.
Celui qui t'a aimé.
Pendant 10 minutes. Quoi.
Ouais, et puis qui a motivé ton coming out. Qui t'a...
Ouais.
C'est assez joli.
Ouais.
Donc du coup, tu arrives dans l'autre partie de ta vie qui est des études secondaires. Comment ça va se passer là ?
J'ai 2 ans de trou noir. Un blackout complet.
Parce que tu as fait la
de
fête.
Fac. C'est la fac.
C'est la
ça fac. S'appelle la fac. Ça s'appelle la fac d'art plastique. Et là, rien. Vraiment, il ne se passe rien du tout. En fait, c'est une prof de la fac qui, je pense, a vu mon désespoir et me dit, mais peut-être tu devrais aller dans une école d'art plus spécifique.
Mmh.
Et quand j'arrive dans cette école d'art, alors là, c'est reparti, c'est la fiesta. Il y a des gays partout. Je me recrée une bande de potes. Il y a des anciens potes du lycée qui sont là aussi. Et là, je découvre le monde gay.
Ok.
Je suis sur Paris. Je passe les détails, mais en gros, je me retrouve à avoir mon petit studio à moi.
Ah ouais, donc là, la liberté, quoi.
La liberté totale. Et je rencontre un premier copain. Là, j'espère qu'il n'écoute pas. Mais un peu pareil, en fait, c'est un peu un copain par défaut. Enfin, c'est lui qui me drague. Et puis, bon, ça faisait 2 ans que c'était vraiment le désert sexuel. Donc, je me dis oui. Alors, je me souviens qu'on essaie la sodomie.
Donc, toi qui essaies sur lui ?
Non,
lui
moi,
qui essaie...
moi en tant que passif.
D'accord.
Et ça ne marche pas, ça ne rentre pas, j'ai mal, enfin ah. bref, c'est... Voilà.
Tu regardais un peu de porno, toi, à ce moment-là ?
Ouais. Oui,
ouais.
Oui.
Parce que ça commence les 95, ça commence les,
ouais.
les ordis, etc.
Mais je crois le premier porno gay
ouais.
que j'ai vu, parce que j'avais vu des pornos sur Canal+, hétéro et tout ça.
Et là, tu comparais ? Toi, ton corps, ton sexe par
oui,
rapport.
Oui, oui.
Et là, grave, parce que pour ouais. le coup, là.
Bah, oui. Alors évidemment, on est sur des,
ah bah oui.
des tailles d'acteurs porno. Donc, d'un autre côté, ça m'excite aussi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est à la fois complexant et en même temps.
Ça
à
fait
la
partie
fois
du fantasme.
Excitant. Ouais,
excitant, bien sûr.
Et. Donc,
avec ce garçon, ça, vous n'avez pas préparé,
pas.
Donc vous n'êtes pas ouais,
non.
opérationnel.
Et lui me dit Donc c'est un pater, hein, donc il me dit, j'ai un pote hétéro, c'est mon meilleur pote, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grand, etc. Machin, je flash sur lui en étant avec moi, machin et tout. Et donc un jour, il me le présente, moi je rencontre son pote hétéro, donc voilà, bonjour, nanana, on discute, enfin tu vois, on a 20 balais, quoi, donc voilà, on part. Et on fait une deuxième soirée, et puis ce pote, toujours ce pote hétéro, me parle, etc. et tout. Et là, mon copain donc, me fait une crise en mode « Ouais, tu crois que je t'ai pas vu ?»« Tu dragues mon pote hétéro alors que c'est mon crush. »« Oui, mais attends, on est ensemble. »« Oui, mais bon, je m'en fous. Bon, » bref, il me largue. Et la soirée suivante, parce qu'on faisait beaucoup de soirées, ce fameux pote hétéro vient. Et je suis un peu surpris qu'il vienne tout seul parce qu'il venait toujours accompagné.
Bien par sûr, son, il était la pièce rapportée.
Son, pour aller vite, en gros, voilà, la soirée se passe. Pareil, je sens qu'il me... sa main, etc. Et on va dans une petite pièce, on s'embrasse, etc. Okay. Et donc, ça devient mon deuxième copain okay. officiel.
Comment t'expliques ça chez les garçons dits hétéros ?
Bah, moi, j'ai une théorie.
Partage-la, moi.
Alors, en plus, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il faisait 1m88.
Ah oui, donc vraiment grand.
Et comme on dit dans le biz, il, il est TTBM, quoi.
Très, très bien monté très, très bien pour monté. Les gens voilà. qui ne savent pas.
Moi, je pense, en fait, que... alors, sans doute, il m'a trouvé sympa. Sans doute, il m'a trouvé charmant.
Ce que je ne doute pas. Beau mais... garçon, ce que tu es.
C'est très gentil.
Non, c'est très vrai.
Je me suis posé la question de savoir si pour un mec qui veut faire une première expérience, parce que, évidemment, il était hétéro, mais il va vite changer de bord. D'avoir un garçon qui, en gros, ne représente pas un danger. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ? Un garçon plus petit comme moi, en fait, j'allais pas le violer, j'allais pas...
être un danger pour
il
lui.
Il peut avoir le dessus facilement sur moi si je fais quelque chose qui lui plaît pas.
On revient toujours sur la domination-soumission, quoi.
Je me suis posé la question. C'est une théorie et après, je trouve que dans mon histoire, ça s'est quand même confirmé plusieurs fois.
De mais... tous les amants que tu as eus, on est plutôt sur des garçons qui sont... dans plus, ce... grand. Plus grand, dans cette dynamique-là avec toi ?
Souvent des garçons ouais, qui sont à différents âges de leur vie, mais mm-hmm. qui sont dans, peut-être dans une incertitude ou dans un début de parcours sur leur...
leur orientation homosexuelle.
Leur orientation gay, ouais.
T'es jamais sorti avec un gay... enfin, un homme gay qui est gay depuis toujours, qui en est efféminé, qui est très assumé sur, sa, sur son orientation, des, sur son genre.
Des plans cul.
Des plans cul, d'accord. Ouais. Mais pas des garçons avec qui tu as eu des histoires.
Plus tard.
Ok.
Pas à cette période-là. Plus vers entre 30 et 35 ans. Mais avant, non.
Et alors, on est TTBM à partir de combien ?
Bah,
à vos mesures. La fameuse.
La moyenne. La moyenne des Français. C'est quoi ?
Vous verriez sa tête. Il a l'œil qui frise quand il parle de ça. Il est dans l'humour absolu. C'est quoi ? Bah, on dit que c'est 12 cm.
Voilà, 12. Bon.
Mais attends, j'ai potassé avant.
Ouais. Alors, bon, moi...
De la base
oui.
au bout en érection.
Mmh.
Je précise parce que...
Moi je pense que... Enfin, si tu veux, le truc... Bon, là, on fait un... Comment on dit ? Un forward en avant.
Ouais. Enfin, oui, on... Enfin, un bond en avant.
Ouais. J'ai une vie sexuelle très active, je pense. Mm-hmm. Je pense que j'ai eu au moins 250-300 partenaires.
Bah, extrêmement active même.
Donc je pense que j'ai eu un panel...
De zizi.
De zizi à ma disposition pour me faire une idée d'une taille. Plus tous ceux que j'ai vus. Voilà. Si moi je devais dire une moyenne...
Bien sûr.
Je dirais que moi, je pense que 15 me semble un chiffre beaucoup plus raisonnable de ce que j'ai vu. Et que... Pour moi, 12-13, en fait, on commence à être dans la moyenne très basse.
D'accord. Voilà.
Ça, c'est mon opinion à moi de ce que j'ai vu, moi.
D'accord, dans voilà. ton panel qui est quand même...
Voilà. Si tu veux, moi, j'ai eu peut-être, sur les 250, peut-être 5 ou 6 garçons qui étaient en dessous de moi. Mais la plupart du temps, tous les partenaires que j'ai eus étaient au-dessus, voire même... Bien au-dessus.
Oui, les TTBM.
Les donc, TTBM.
Qui sont donc à partir de...
Bah, moi, je pense qu'on est quand on est à 17 et plus de 17, on est bien, quoi. On est bien dans sa peau, ça va.
On est bien dans sa peau de zizi.
Mais,
et j'ai... en dessous de 12, ça commence à être un peu...
En dessous de 12, ça commence à être problématique. Mais je pense même à 13, 12, on commence à te regarder un peu mode déception, quoi.
Ok. Et tu as des partenaires en dessous de 10?
Ouais. Ah, en dessous de 10, non. Mais je pense peut-être 11.
D'accord.
11, j'ai déjà dû avoir. Ok. Ouais.
Mais tu mesures? Comment tu es si précis?
C'est à vue de nez, comme on dit.
Ah, t'es devenu vraiment un expert.
Bah, après, c'est-à-dire que j'ai mon propre
bien sûr. Étalon. Bien sûr, étalon.
Enfin, façon de parler.
Waouh, c'est un peu un super pouvoir.
Mais après, en fait, le problème de ces histoires de taille, c'est que soit, en fait, on détermine une taille, donc la fameuse moyenne nationale et tout ça, et on dit, OK, c'est ça le truc. Si t'es en dessous, t'es petit, si t'es au-dessus, t'es grand. En fait, ça marche pas vraiment comme ça. Parce qu'il y a plein de choses qui entrent en compte. Si t'es un mec d'un mec 88 avec 12 cm, ça va sembler petit.
Bien sûr.
Si tu fais 1m60 avec 20 cm, ça va paraître énorme. Il y a aussi l'épaisseur, etc.
Bien sûr. Donc, ce que j'allais te dire, c'est que... Enfin, là, je parle de sexualité hétérosexuelle entre un homme et une femme. Pas mal de nanas préféreront plus large que long.
Oui.
Tu vois ? Après, je ne me rends pas trop compte dans la sexualité homo. Et puis, en plus, ça va dépendre des pratiques qui vont être faites. Mm. Mais c'est vrai que, comme tu dis, l'épaisseur est hyper importante aussi.
Alors, après, tu vois, il y a d'autres études qui donnent 14, je ne sais pas combien. Donc, on se rapproche un peu plus du 15.
Ça, c'est la moyenne européenne ?
C'est une moyenne, je sais pas, que j'ai trouvé, tu vois, sur Internet. Enfin, on trouve de tout. En fait, moi, je ne veux pas parler de micro-pénis, etc., parce que ce n'est pas mon cas. Et je veux absolument pas parler au nom d'hommes qui auraient un micro-pénis.
Alors, sur le micro-pénis, l'âge adulte, la taille moyenne d'un pénis en érection est d'environ 12,5 cm. Ainsi, un pénis adulte mesurant moins de 7 cm en érection sera qualifié de micro-pénis. Voilà, en dessous de 7 cm en érection. Donc, ce n'est pas ton cas. Et du coup, donc toi, Quentin, donc beaucoup de... Ça veut dire beaucoup de zizi, beaucoup de comparaisons. Et c'est ce que tu disais, le fait d'avoir un pénis dans la moyenne basse, pour reprendre tes termes, ce que tu me disais juste à l'instant, c'est que ça entraîne pour certains de tes ça a entraîné pour certains de tes partenaires une direction vers la passivité. Ça oriente en tout cas.
Oui. Alors après, là, je parle de mon expérience aussi en tant que gay.
Bien sûr.
Parce que je évidemment, il faut pas faire des généralités, etc. Donc je ne veux surtout pas faire des généralités. Mais c'est comme, enfin, on va dire que la taille du pénis, c'est quand même une obsession assez récurrente sur les sites de rencontres, sur les applis, etc.
Dans le biz, dans le les biz, gars mettent s'ils sont
sûr,
bien montés, pas
tous
bien.
Les, enfin, on peut ouvrir n'importe quelle appli de rencontre gay et tu vas voir que la taille du sexe entre dans la description. C'est un argument de vente incroyable. Ouais. Pour le sexe. Je parle dans le milieu gay.
Bien sûr.
Donc, si tu veux, moi, si je mets 1m60, 13 cm, en gros, je te jure, je n'intéresse personne. Voilà, tu vois.
Quels sont tes arguments de vente, alors ?
Bah, y a l'argument de... Alors, déjà, il y a l'argument de ne pas le dire, déjà. Voilà. De miser sur autre chose. Il y a l'argument de se dire qu'il y a des mecs qui s'en foutent.
Ouais.
Parce qu'il y a des mecs qui s'en foutent.
Mmh. Toi, tu t'en fous ?
Il y a des mecs qui aiment ça.
Aussi.
Et qui, je sais pas, préfèrent, par exemple, pratiquer la sodomie avec des sexes plus petits, parce que ça fait mal ou parce qu'ils sont étroits ou machin.
Bien sûr.
Donc voilà. Et puis, il y a la solution d'être passif.
Ouais.
Le truc, c'est que... alors, moi, je ne suis pas passif par défaut parce que j'aime ça aussi.
Tu es versatile.
Je suis versatile, mais c'est vrai que souvent, tu sens que, voilà, quand tu déshabilles...
assez naturellement, voilà, le partenaire va te...
Ouais. Et en plus, ma taille d'1m60, c'est-à-dire que quand j'avais tu vois, entre 20 et 30 ans, que je ressemblais à un twink...
Oui. Twins, c'est les garçons gays, très fins, très minés. C'est ça la traduction. Hein.
Les mecs qui venaient me draguer, c'était principalement des actifs qui voulaient une relation où j'étais passif. Enfin, c'est d'ailleurs assez drôle de voir qu'un corps projette comme ça une sexualité. Grand mec poilu d'1m90, forcément il est actif. Bah non, ça se trouve...
Ça se trouve pas du tout.
Ça se trouve, il aime les fleurs et puis...
C'est ça.
Et c'est ça qui est un petit peu, je trouve... qui est un petit peu triste. Mmh.
Tu penses que c'est propre au milieu gay ou c'est la société en général ?
Je pense que c'est propre au milieu gay. Enfin, c'est très particulier au milieu gay, mais je pense que chez les hétéros, on projette aussi ce genre de choses.
Ouais, je pense aussi.
Tu vois, si on voit un garçon, enfin, moi je connais plein de mecs hétéros qui sont hyper grands et tout ça et qui sont des nounours. Mmh. Tu vois ? Et qui ferait pas de mal à une mouche, mais on va leur projeter des trucs de force, de machin, de trucs, de domination. Et puis des mecs qui sont tout petits et qui sont des petits roquets, il faut mieux s'en méfier parce qu'ils ont.
Ouais, ils peuvent être énervés, quoi.
Ils peuvent être énervés. Donc j'ai l'impression qu'en fait, on projette tous ces stéréotypes par rapport au corps.
Et justement, ta corporalité, au-delà du sexe, bon là on sort un tout petit peu sur la partie sexualité, mais est-ce que tu as le sentiment que ça projette une image de toi par rapport au milieu professionnel, social, etc. Mmh. Les gens, pourraient tirer le propos, est-ce qu'on te prête des traits de caractère parce que tu es un peu plus petit que la moyenne ?
Ouais.
Ouais ?
Bah, disons que si je suis honnête, quand j'étais vraiment jeune, tu vois, la vingtaine, je pense que j'en jouais. Parce que c'était aussi un argument pour le sexe, tu vois.
Bah, tu t'es approprié aussi.
Oui, donc il y avait un côté de jouer un peu le twink, tu vois, justement. Mais au bout d'un moment, ça finit par me saouler. Parce qu'en fait, moi, je n'avais pas envie d'un daddy qui me berce et qui machin et tout ça. Genre, oui. En fait, ce n'est pas mon caractère. Dans la vie de tous les jours... tu vois, ça me fait penser à une copine qui est en surpoids et qui me disait, mais tu sais, dans la rue, les gens ne s'arrêtent pas pour me dire espèce de grosse vache, machin et tout. Elle me dit, c'est pas ça. Elle me dit, c'est le regard. Mm-hmm. Le regard en coin. Le regard en coin des gens qui te regardent. Mm-hmm. Elle me dit, si je sors de la boulangerie avec un pain au chocolat, j'ai l'impression que les gens me regardent en disant, ah bah dis donc, elle mange encore un pain au chocolat, machin et tout.
Elle préfère du sport à la place, bien sûr.
Et le regard, alors j'ai eu des regards de femmes sur moi, mais le regard des hommes sur moi, je sens ça. Tu vois, je sens un côté genre, qu'est-ce que c'est que ce minus, qu'est-ce que cet avorton ? Alors évidemment, c'est pas quotidien, ma vie n'est pas un enfer et tout ça, mais ça arrive. Et tu sens ce...
Et on associe quoi justement aux gens plus petits ?
Aux gens plus petits, on associe un manque de force. Mmh. Mais...
Les gens voient pas tes épaules, hein ?
Oui, mais alors...
Tu fais du sport pour avoir cette carrure, tu t'entretiens, tu nages.
Ouais.
Ah, parce que t'as vraiment des épaules sacrément carrées.
Bah, si tu veux, le truc, c'est que si tu me dis « vas-y, bats-toi contre un tel », je vais sûrement pas gagner, tu vois, c'est sûr. Il y a des grandes chances. Mais le problème, c'est que la force, enfin, le physique induit aussi... on va dire une force mentale, ça c'est complètement idiot. Tu vois, c'est-à-dire que un mec qui est grand n'est pas forcément plus courageux.
Non, mais c'est ça que je te demandais, c'est qu'est-ce qu'on projette chez quelqu'un de plus petit dans ta vie de tous les jours. Mais tu as raison, effectivement, de rappeler que c'est pas parce que tu es plus petit que tu n'es pas courageux, tu n'es pas pugnace, tu n'es pas ambitieux, tu n'es pas belliqueux. Enfin, tu vois, tu peux être.
Si tu regardes, par exemple, toutes les injures, etc. et tout, tu vois, par exemple. Si c'est tourné vers quelqu'un de célèbre, par exemple, on va se moquer de sa taille. Mm-hmm. Tu vois, on va se moquer de... Alors, moi, je vote pas pour lui, hein, mais tu vois, on s'est moqué de Nicolas Sarkozy.
Bien sûr.
C'est l'avorton, c'est etc. et machin et tout. On te prête quelque chose qui est... Tu n'es pas dans la capacité de gérer, tu n'es pas dans la capacité de protéger, tu n'es pas dans la capacité de... etc. Et en fait, tout ça, c'est tout un... je sais pas comment dire, oui, en fait, tout un pot commun comme ça d'idées reçues qui sont véhiculées depuis peut-être la nuit des temps, j'en sais rien, et tout, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Parce que, à la vérité, tu peux être petit et être dictateur du monde.
On en connaît.
Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux être grand et nonchalant,
et
etc.
Et mou et tout ce que tu veux.
Et mou.
Dire,
et ouais. Tu peux être petit et brave et voilà,
bien
etc.
Sûr, bien sûr.
Et là où je veux en venir, c'est que finalement, ces mêmes valeurs qu'on prête à la taille d'une façon commune et tout ça, on le prête aussi à la taille du sexe. C'est-à-dire que, est-ce que tu imagines Spider-Man ou Batman ou Superman avec un micro-pénis?
J'ai l'image.
Non.
Bah, c'est l'image.
Tu vois, tu t'imagines qu'ils ont un Superman, il a un putain de bite énorme, tu vois, machin et tout. Parce qu'ils sauvent le monde, tu
bien
vois.
Bien sûr.
Et
donc il est vaillant, il est, oh,
il
bien,
est
sûr,
vaillant.
Bien sûr.
T'imagines que Barack Obama, il a ce qu'il faut là où il faut. Par contre, si tu veux te moquer de Trump, et tu le représentes avec un petit kiki. En fait, c'est tous ces clichés-là hein, qui. En fait, qu'on parle d'histoire de taille, machin, c'est petit, c'est grand. En fait, finalement, c'est pas vraiment le problème parce que il y aura toujours des mecs qu'on aura une plus grosse que toi déjà, qu'on aura une plus petite que toi, comme disait ma grand-mère, chaque poids son couvercle.
Tout à fait.
Tu vois, tu peux avoir un sexe de 12, 13 cm, 14, 15, que tu veux, l'important c'est de trouver la personne qui va t'aimer tel que tu es, avec ce que tu as et à qui tu vas donner du plaisir, etc.
Bien
et
sûr.
Voilà. Mais ça reste quand même déjà une préoccupation majeure, je pense, chez les mecs, à tout âge.
C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'aujourd'hui, à 45 ans passés, tu es plus apaisé avec ça?
Oui, oui.
Parce que j'imagine, puisque tu l'as dit, tu as eu jusqu'à 250 partenaires. Donc, tu as eu, j'imagine, entre ta vingtaine, ta trentaine, avec ton compagnon, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?
Ça fait 12 ans.
Donc, ça veut dire que tu as une trentaine que tu as rentabilisée.
Grave.
Et ça, c'était des plans donc, sur les applis?
Oui, alors quand les applis ont
existé. Ouais, toi, c'est vrai que tu avais quel âge quand les applis sont arrivées?
Bah, au début, moi, je sortais beaucoup.
Donc en boîte?
J'allais dans les boîtes, j'allais dans les bars beaucoup. J'aimais beaucoup les bars.
Donc dans le Marais?
Feu, le Marais. Mais
oui,
disons
c'est plus
qu'il y a quand même beaucoup de bars que moi, je fréquentais, qu'on disparaît. Après, j'allais beaucoup au Queen. C'était la grande période du Queen, du garage, la machin et tout. Et puis, j'aimais beaucoup
donc
aussi...
Donc, tu rencontrais beaucoup en soirée, en boîte, en bar.
Je fais une petite aparté, mais je trouve ça aussi intéressant parce que je trouve que le fait de rencontrer en bar, quand y a un mec qui drague ou t'es dans un bar, tu commences à parler à un mec, tu le trouves mignon, etc. Tu sais pas ce qu'il a dans le slip. Tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai.
Si t'es sur une appli où le mec dit...
Mais surtout, il te voit.
Moi, je mesure tant, je pèse tant, et puis machin et tout, et que c'est ça ton critère de...
Bien
sûr. Tu vois, qui va guider ta recherche. Donc, j'ai rencontré plein de mecs très différents et des fois avec des surprises totales.
Qui peut-être sur appli, ça t'aurait pas...
Non.
Forcément. Enfin,
non.
Tu vois. Mais là, c'est le feeling, c'est...
Ouais, ou genre, par exemple, je me souviens d'un mec, c'est dingue, un mec qui me drague et une espèce de montagne... Tu vois, de, je sais pas, hyper grand, physique de nageur.
Genre un peu rugbyman, ouais, nageur.
Ouais, chauve et tout, magnifique. Moi, je me dis, oh là là, c'est bon, j'ai passé à la casserole, quoi, tu vois. Je le ramène chez moi et genre, il veut que je sois actif. Enfin, tu vois, les
stéréotypes auraient fait, les préjugés auraient fait que, ouais, bien sûr.
Et voilà, sauna, beaucoup.
Ouais.
J'ai beaucoup fait les saunas. J'aime beaucoup les saunas.
Est-ce que tu peux rappeler un peu comment fonctionne un sauna?
Bah, le sauna, bon... un petit peu le nom de sauna parce qu'il y a un hammam à l'intérieur. Oui. Mais en gros, ça ressemble plutôt à des labyrinthes où il y a des petites pièces où tu peux t'enfermer avec ton partenaire ou la personne que tu as choisie. Il y a des douches communes, il y a des douches privées. Alors non, tu as une serviette.
D'accord.
Après, si tu as envie de te balader nu, tu peux te balader nu. Mmh. Voilà. Et je trouvais que l'avantage du sauna, c'est qu'au moins, c'était un peu carte sur table. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, les gens te voient dans ta nudité.
Quasi, ouais.
Et du coup, voilà, il n'y a pas de surprise, quoi. Tu vois ce que...
Tu vois.
Voilà.
Ce qui va te plaire ou non.
Et ça, j'aimais beaucoup. Après, les sex clubs, je suis moins fan parce que je suis désolé, mais souvent, je trouvais que c'était sale.
Un peu cracra.
Un peu cracra.
Genre comme le dépôt, tout ça?
Ouais.
Ouais.
Après, j'ai essayé des partouzes, mais chez des particuliers, enfin, tu sais, des mecs organisés partout chez eux. Mais ça m'a pas trop plu.
Et comment...
Le sexe triste, je trouve.
Sexe triste ?
Sexe triste.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que... Là, je parle encore une fois de mon expérience dans la communauté gay.
Bien sûr.
Je dis ça en plus parce que moi aussi, au bout d'un moment, j'ai ressenti des choses comme ça. Qu'en fait, je suis dans une sorte de consommation. Où en fait ça devient une sorte de routine, c'est-à-dire que tu as ton appli, machin, tu organises tes plans cul pour le vendredi soir, pour le samedi, pour le truc et machin et tout, où finalement il y a quand même très peu de sélection et au final ça devient mécanique, tu vois ce que je veux dire? Le problème comme ça d'une surconsommation de sexe, alors il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, chacun fait ce qu'il veut, etc. Il n'y a pas de souci. Ce qui m'ennuie plus, en fait, c'est la perte d'humanité. J'ai l'impression, en fait, qu'on oublie que le sexe, c'est avant tout une rencontre, tu vois, humaine entre deux individus. Et moi, tu vois, les plans dont je me souviens, ce n'est pas forcément les mecs les mieux montés, ce n'est pas forcément les mecs les plus beaux, c'est pas forcément... Alors souvent, c'est ceux qui m'ont donné le plus de plaisir, mais c'est les mecs avec qui je passais un bon moment. Tu vois, avec qui on pouvait baiser, puis après, on rigolait, voilà, parce qu'on se racontait des conneries.
On partageait quelque chose.
Voilà, on se partageait quelque chose. Je peux comprendre l'excitation du sexe anonyme, tu vois, du truc, genre j'attends, et puis il y a quelqu'un qui vient, il fait son truc, il s'en va, et puis voilà, je veux pas savoir qui c'est et tout. Mais quelque part, je trouve ça un peu... Je trouve ça bien dans un délire, dans un fantasme et tout ça, mais je trouve ça dommage, en fait, qu'on oublie... Justement le côté humain, quoi, voilà.
Je comprends. Et comment tu rencontres ton compagnon?
Je l'ai rencontré sur une appli.
Et comment tu sais, après que vous passez les premiers moments ensemble, que là c'est un peu différent?
C'était pas si simple que ça. Alors déjà, je pense que j'étais vraiment dans un truc un peu de relation, enfin d'échec de relation.
Dans tous les partenaires que t'as eu, t'as eu quelques histoires même, ouais.
Ouais. J'en ai eu deux. J'ai eu un garçon avec qui je suis resté 5 ans, mais c'était une relation un peu chaotique, un peu toxique. On se trompait, on revenait ensemble, on se déchirait, on pleurait, puis on rebaisait, puis on se remettait ensemble. Bref.
Chaotique.
C'est
bien décrit.
Voilà. Mais niveau cul, c'était...
Incroyable. Qu'est-ce qui fait un bon amant pour toi?
Un bon amant, c'est déjà forcément quelqu'un qui a l'écoute.
Du désir de l'autre?
Oui. Après, je pense que... je pense qu'il y a des gens qui confondent... Alors là, je parle pour un actif. Hein, qui confondent, tu vois, force, enfin, tu vois, le truc de l'actif, de prendre les choses en main, de machin et tout, avec... être un robot, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu peux être chaud, prendre les choses en main avec intelligence, en étant à l'écoute de l'autre, en étant en même temps doux,
subtil,
et voilà, subtil, etc. Sûr. Je dirais que moi, c'est ça, dans tous les partenaires que j'ai eus et des copains. Donc j'ai eu ce copain-là, après j'ai eu un autre copain en Suisse, une histoire aussi un peu compliquée. Franchement, il n'y en a aucun, par exemple, qui avait la même taille de sexe. J'ai eu des orgasmes avec des mecs qui avaient 13-14 cm. J'ai eu des orgasmes avec des mecs qui avaient 19-20 cm. Et j'ai eu des plans cul avec des mecs qui avaient 20 cm et c'était nul.
C'est important de le dire.
Voilà.
La taille ne fait pas du tout, du tout la compétence.
Et c'est pour ça que, tu vois, ça m'ennuie, cette histoire de choisir ses partenaires sur leur taille, parce que je pense que les gens seraient étonnés, en fait, tu vois, de ce qui peut se passer. Et franchement, moi, je me souviens d'un mec, j'étais vraiment tombé amoureux de lui comme ça, tu vois, parce que je le trouvais beau, etc. C'était pas la folie furieuse, tu vois, au niveau de la taille du sexe, mais genre, c'était magique, quoi.
Ouais, parce que la chimie entre vous était...
C'est ça, une chimie, un truc, voilà. Enfin, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui... Enfin, quand j'en parle à mes amis gays, tu vois, par exemple, il y a des amis gays qui me disent « Ah oui, mais moi, en dessous de 17, je sens rien. Ça ne marche pas. » Ah, d'accord.
Tu penses que c'est physique, vraiment?
Je pense qu'il y a une excitation physique, peut-être de visuel, tu vois, de se dire « Je vais être possédé par... » etc.
Je comprends.
Je me souviens d'une anecdote où je vais à une partouze. Il y a un mec qui Alors, la partout se passe en deux temps. Il y a une partie où on est habillé, puis on discute, puis la partie où on se déshabille, puis on passe à l'acte, quoi.
Enfin, c'est un cocktail mondain.
C'est ça. Un goûter.
Un goûter. Avant de goûter.
Voilà. Et le mec me regardait, tu sais, un peu en mode, machin, comme ça. Il vient me voir à l'oreille, il me fait, tu vois, tout à l'heure, je vais te démonter, machin et tout.
Oh, pas du tout chic. God.
Le mec dit, enfin, tu vois, on se déshabille, c'est le moment de passer à l'acte. Le mec se jette sur moi, et vas-y, machin et tout. Ah, il était bien monté, il n'y avait pas de souci. Nul. Et il y avait un petit mec, je le dis, un asiatique, qui était là et qui me regardait, je pense, depuis le début, et qui vient me voir un peu penaud. Je rentre en mode, et moi, je pourrais essayer, tu vois. Je suis rentré avec lui. C'était génial.
Et son sexe n'était pas impressionnant comme...
Non, c'était
comme
pas fifou, mais franchement, c'était génial. Une fois, en toute connaissance de cause, je rencontre un mec qui avait un sexe énorme.
Donc plus de 20.
Plus de 20. Et puis... Enfin bon.
Ok, donc là tu viens de me faire une. Ok, donc ma gourde qui est énorme. Ok.
On va chez lui, lui très excité, tout ça. Moi je me prépare. On oublie de parler de ça, mais c'est genre. C'est des heures de préparation.
Oui, quand tu es passif, qu'effectivement, surtout un amant qui a 20 cm, c'est quand même, oui, j'imagine, la prépa. Donc quand tu dis prépa, c'est lavement.
Lavement, ça peut être ce que tu manges avant. C'est sûr que si tu manges une choucroute avant. C'est moins bien que si t'as mangé une petite salade, tu vois. Bref.
Ok, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr, dilatation, tout ça, on fait très attention.
Ça passe, quoi, tu vois. Le mec fait, allez, 10 allers-retours, 20 allers-retours, et il jouit.
Ok.
Et donc moi, je suis un peu en mode, t'es gentil, mais ça fait 24 heures que je me prépare.
Ça fait 24 heures que je mange de la salade.
T'es gentil. Et il me dit, mais tu peux pas savoir le nombre de mec, il me dit, ça fait des mois et des mois que j'ai pas eu de relation sexuelle. Parce que les mecs fantasment tous, ils veulent tous coucher avec moi.
Mais
quand arrive le moment, aïe, oui, ah non, j'ai mal, ah non, vas-y, retire-toi. Et il me dit, là, c'est la première fois que
c'est
ça rentre,
fluide.
Que c'est fluide et tout. Il me dit, je suis désolé, c'est parti.
Est-ce que les garçons qui ont justement des très gros zizi, tu penses que c'est pas facile pour eux non plus? Parce qu'il y a aussi une attente, tu vois, dans l'autre sens, dans l'autre prisme.
Moi, je pense aussi.
Parce que tu vois, quand tu as un sexe de plus de 16, 17 cm, et bon, quand tu arrives à des 20 cm, Rocco Siffredi, c'est 22, hein.
Oui.
Je crois que c'est ça, enfin, la légende, c'est juste pour faire...
C'est la légende.
Toujours est-il que ces mecs-là, il y a quand même, j'imagine, une énorme attente. Tu vois, en plus, quand tu expliques que dans le milieu gay, dans le biz, il y a vraiment un degré... Enfin, en tout cas, il y a un fantasme autour de la taille du sexe, etc. Le gars qui a 20 cm, il doit, pareil, il doit aussi en envoyer, quoi.
Bah, disons qu'après, tu vois, je pense que avoir un gros sexe et tout ça, je pense quand même que c'est vendeur. Après, je pense que ça te donne peut-être une sorte d'assurance. Tu vois, je pense que les mecs qui sont bien montés ou qui ont peut-être comparé à l'adolescence ou dans les vestiaires et qui se rendent compte qu'ils sont dans la moyenne ou dans la moyenne supérieure, enfin, déjà, ils sont souvent très fiers.
Mm-hmm.
Ils aiment beaucoup en parler.
Bah parce que c'est comme tu le dis, c'est une validation.
Oui, après, on parlait vite fait après, mais des fois, c'est étrange quand même, hein.
Ouais.
Tu vois, genre, par exemple, les collègues de bureau qui finissent par te caser dans une conversation qu'ils en ont une grosse, t'as envie de dire, mais pourquoi ?
Ouais.
Je ne t'ai rien demandé.
Ouais, ouais, ouais. Il y a des informations que tu ne veux pas avoir. Enfin, si tu transposais ça, par exemple, aux gens féminins,
ouais.
On ne parle pas de notre vulve en réunion sans des blagues.
Par contre, les mecs adorent en parler. Dans mon boulot, il y a beaucoup de mecs hétéros. C'est la foire, voilà. Tout ça pour dire que je ne sais même plus de quoi on parlait.
On parlait de la taille des garçons qui ont des très gros zizi.
Bah, je ne peux pas parler pour eux, mais je pense que c'est une fierté. Je pense que c'est quand même plus... Enfin, je dis mon avis. Je pense qu'en tout cas, dans le milieu gay, je pense que c'est quand même plus facile pour appâter les clients, appâter le chaland et avoir des aventures sexuelles. Maintenant, oui, je pense que le mec qui a vraiment un gros sexe, bien sûr, doit rencontrer des garçons qui
sont aptes.
Voilà, enfin, ça rentre pas, etc. Et puis le truc aussi, c'est que tu vois, par exemple, si alors évidemment tout ça c'est une histoire de goût et tout ça, mais c'est vrai que par exemple moi je me verrais pas avoir un partenaire avec un sexe trop énorme et avoir des rapports très réguliers.
Là, tu mangerais beaucoup de salade, quoi.
Je mangerais beaucoup de salade. C'est, ça demande quand même beaucoup de travail. Disons que tu sens quand même que c'est... Enfin, je pense ne pas me tromper. Là, évidemment, encore une fois, je ne veux pas faire de généralité, tout ça. Mais je pense quand même que c'est une préoccupation majeure chez les mecs hétéros, chez les mecs gays, etc. Qu'il y a toujours ce rapport chez les garçons, ce truc de compétition, de machin, de truc... Je pense, je suis persuadé que le mec qui a 16 cm en voudrait 18, que celui qui en a 18 en voudrait 20, que celui qui en a 20 en voudrait 22. Tu vois, c'est sans fin en fait. Bien sûr. Comme les mecs veulent toujours être plus musclés et puis plus machin, tout ça et tout. Le truc, c'est que, en fait, si on entretient en fait, ces mythes et toutes ces choses en fait, autour de
la tête du sexe,
mais comme on entretient des mythes sur la virilité, etc., en fait, on n'en sortira jamais. Tu vois, parce que. La vraie question, c'est en plus la taille du sexe qui est souvent tournée en dérision. C'est-à-dire qu'on se moque ouvertement, je suis désolé, je dis des petites bites, tu vois. Hein, c'est des blagues sur les petites bites, sur les machins. On dit de quelqu'un qui n'est pas courageux que c'est une petite bite. C'est quelque chose qu'on ne choisit pas. C'est-à-dire que...
Comme sa couleur de peau, comme sa morphologie, oui. Comme tout ça, exactement.
Et donc on peut rien faire. Et je trouve que dans les combats qui sont menés, tu vois, sur LGBTQ+, sur le féminisme, sur contre la grossophobie, contre le racisme, etc. Mmh. Moi, je connais des gens qui sont ou qui se disent dans ces combats-là, etc. Mmh. Mais quand on parle de façon intime, en off, etc., vont te glisser, tu vois, ah ben moi, s'il y avait une petite bite, j'aurais pas le moral. Ou si c'est une meuf, ah ouais, non, faut quand même pas exagérer. Tu vois, en dessous de telle taille, non, moi, le mec, il rentre chez lui. Et tu te dis, pourquoi ? Parce que c'est une discrimination. Juger quelqu'un sur la taille de son sexe, savoir s'il est apte ou pas à donner du plaisir... C'est limite si on est en train de dire, toi, tu as le droit de rentrer dans le royaume du sexe. Mmh. Non, toi, tu restes à la porte. Quoi.
Parce qu'il te manque, à mon sens, il te manquerait 2 cm.
C'est ça.
Oui, c'est vrai.
Et je trouve que, tu vois, par exemple, le dans la communauté gay qui est victime de discrimination, qui se bat contre toutes les discriminations, je trouve que ça serait intéressant qu'elle fasse aussi un travail sur... les discriminations qu'ils exercent, enfin qu'on exerce, parce que je me comprends dedans,
au sein même de la communauté.
Au sein même de la communauté, du racisme, et du racisme lié à la taille du sexe. Je pense, dire sans me tromper, que beaucoup de gens qui écrivent « no Asiates » sur leur profil n'en veulent pas, parce que les Asiates ont la réputation d'avoir un petit sexe.
Ouais.
Et que les mecs, à l'inverse, font le racisme inverse, en disant qu'ils veulent des blacks.
Ouais, en fétichisant les... Les gens qui sont africains parce qu'effectivement, les maghrébins ou les africains d'Afrique noire sont réputés pour avoir des plus gros zizi.
Donc tout ça pour dire qu'au final, cette question de taille, etc., qui, moi, je trouvais un peu tabou. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut en parler, c'est très dur de trouver quelqu'un qui va te dire « Bah écoute, bah non, bah moi, elle fait 12, elle fait 13, bah c'est comme ça, voilà. » Puis je suis heureux comme ça. Tu vois, j'ai trouvé dans la culture populaire, je crois, un truc, c'est Big Mouth, c'est la série qui parle de sexualité.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Où il y a le petit héros.
Le dessin animé ?
Ouais.
Ouais, il est vachement bien.
Le petit héros qui est un petit kiki.
C'est vrai.
Et qui le... Je crois que ses copains le déshabillent et se moquent de lui. Il a un petit kiki. Il complexe beaucoup parce que son meilleur pote, lui, et par contre, il a une espèce de truc démesuré. Et le papa, dans la série, pour sauver son fils, vient à l'école et puis baisse son pantalon. Puis dit, bah, regardez, moi aussi. Et moi, je suis heureux. J'ai ma femme. Je la fais jouir. Voilà. Et puis la femme dit oui. Voilà, moi, je prends mon pied, machin et tout. En fait, je trouve ça drôle parce que ce que je veux dire par là, c'est que ces histoires de tag de sexe et tout ça, auxquelles on accorde tellement de valeurs, en fait, tu vois. Des valeurs de bonheur, de réussite, de force, de virilité, de chance, je sais pas ce que...
Oui, tout ce qu'il y a derrière, bien sûr.
Et la garantie du bonheur, tu vois, elle est où ? Parce que tu peux mesurer 1m85, avoir 20 cm dans le pantalon et être malheureux comme une pierre. Et tu peux être, comme moi, petit, 1m60, avoir trouvé... ce que je pense être l'amour de ma vie. Et moi, je suis très heureux, tout va bien.
Ouais, tu le portes sur toi, en tout cas.
Et en fait, c'est un peu ça qui me dérange. Et
c'était le message que tu souhaitais faire passer.
Ouais.
Surtout.
C'est le message que je voudrais faire passer. Et puis, je sais que ça n'arrivera pas, tu vois, parce que je pense que ça n'arrivera pas. Regarde, par exemple, le nombre de célébrités, de stars, etc., où il y a des leaks, par exemple, sur des photos un peu dénudées, etc., où ils vont se vanter, etc. Il n'y en a aucun qui va se vanter disant « moi j'ai 12 cm ou 13 cm ».
Oui, puis même ces mecs-là dont tu parles, c'est toutes ces stars françaises, américaines, que sais-je, qui font des photos où on les voit en slip, ils sont toujours des énormes paquets.
Bien sûr.
Alors qu'en fait, très probablement, c'est retouché comme
oui,
toutes les actrices sont retouchées.
Ou peut-être qu'ils ont un gros paquet, mais le truc, c'est que forcément, il va avoir envie de le montrer parce qu'en fait, la société juge que c'est bien.
Ouais, que c'est validé. Ouais.
Voilà, en fait, c'est bien, c'est pas dérangeant. Par contre, un mec montrerait son petit sexe, c'est dérangeant.
Ouais.
Il est là le problème. Toutes ces choses qu'on rattache au fait d'être grand, au fait d'avoir un grand sexe, etc. Toutes ces notions de virilité, de courage et tout. Personnellement, quand je vois des espèces de grands cons dans le métro qui se lèvent même pas parce qu'il y a une femme enceinte ou une femme âgée qui veut s'asseoir, moi, je me demande en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ces notions-là ? Ça veut rien dire du tout, mais rien.
Est-ce que tu penses pas qu'à l'une de la... justement, des corps qui sont... moins normé, qu'est-ce que la norme aussi, mais comme tu vois, il y a le combat, tu parlais tout à l'heure, tu as mentionné la grossophobie, qu'on voit de plus en plus des corps gros, des corps... alors là, je vais parler de femmes, mais d'hommes aussi, hein, je pense à certains modèles comme David Van Katapen, que je connais et que j'embrasse. Et c'est vrai qu'il contribue, lui, et puis plein d'autres, à mettre des corps gros en valeur, et puis des corps avec la cellulite, des corps avec des seins qui tombent pour les femmes. Enfin, tu ne penses pas qu'à un moment donné aussi, ça va changer ? Tu ne penses pas qu'on va rentrer aussi dans cette expression-là où les sexes... Parce que les femmes, tu sais, il y a pas mal de... Pareil, il y a des galeries sur Instagram de dessins de vulves avec tous les types de vulves, avec des petites lèvres, des grandes lèvres, des sexes chubby, des sexes pas du tout comme ça. Enfin bon, il y a tout épilé, pas épilé, il y a tous les styles. Tu penses pas qu'à un moment, ça va aussi se réaliser auprès des pénis ?
Bah justement, j'avais envie de parler de ça parce que justement, je trouve que ça ne change pas. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours les mêmes représentations. Alors, peut-être que ça existe et que je ne suis pas au courant, hein, tu vois. Si, par exemple, tu vois, tu vas dire, oui, d'accord, c'est la pornographie, etc. Mais genre, quand tu tapes, même l'autre jour, je tapais « average cock ».
Ok.
Tu vois, genre, en gros, sexe normal.
Zizi
enfin, voilà, « average », quoi, c'est genre truc. Quand tu tapes ça dans un moteur de recherche porno, il te conduit vers des humiliations. Des vidéos d'humiliation de gens qui ont des petits sexes et qui sont humiliés ou des trucs cuckold, tu vois.
Ça veut dire quoi ?
C'est en gros des alors, il peut y avoir des cuckold hétéro ou gay ou autre. C'est en gros, tu appelles un étalon pour venir baiser ton mec ou ta femme parce que toi, ça va pas, quoi, tu vois.
Ah, d'accord. Ah oui, donc c'est rien de positif, quoi.
Bah, c'est une humiliation.
Non, mais je veux dire, oui, là, ça veut dire quand tu tapes sexe moyen, tout cas dans la moyenne. Mais
dans le porno gay, c'est très rare de trouver. Enfin voilà, tu ne vas pas trouver de représentation. Alors tu vas me dire c'est du porno, c'est du fantasme,
non,
mais le porno a toujours été comme ça.
Je suis assez étonnée quand même. Parce que
mais c'est vrai que le porno gay pourrait être un peu plus représentatif.
Bah, peut-être le porno gay amateur ?
Alors amateur, oui, peut-être il y a des OnlyFans.
Ouais. Voilà. Mais bon.
Enfin, sur une représentation comme ça, masculine, qui parlerait de toutes les formes, de toutes les tailles, tu vois, de sexe masculin,
ouais,
perso, j'en vois pas. Et surtout, j'ai l'impression qu'en fait, les mecs ont peur. Moi, je pense que c'est ça, surtout. Je pense qu'il y a une peur. Les mecs ont jamais peur quand ça va. Tu vois, quand c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Quand ils sont dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne, ils aiment en parler. Quand ils sont en dessous...
Tu penses pas qu'il y a beaucoup de mythos ? Tu penses pas justement que les hommes mentent un peu sur la taille de leur sexe en disant toujours « j'en ai une grosse », etc. Et puis qu'en fait,
Oui, ils aiment bien embellir.
Ouais, tu penses pas ?
Si, bah oui.
Moi, je pense. Hein.
Bah, tu vois, dans les profils de sites de rencontres et tout ça, je pense que, bon, évidemment, je viens pas avec mon double décimètre pour vérifier.
J'imagine, ce serait bon, si drôle.
Que... Non, mais c'est les photos des mecs qui se comparent en tenant, tu sais, une télécommande. Ou un...
Mais je te crois pas, on est là. Putain, mais faut vraiment que j'aille. Mais écoute, excusez-moi,
mais
monsieur.
Tu ne traînes pas sur Twitter.
Alors, Twitter, bah, pas trop, trop de haine. Et j'avoue, Grindr, tout ça, non, j'y vais pas, quoi.
Et tu connais le site maque.com?
Pas du tout, mais attends,
c'est formidable.
Tu viens d'ouvrir un champ des possibles.
C'est un site en fait, où les mecs, alors, hétéro, bi, tout, postent des photos de leur
zizi.
Voilà, et elles sont classées par taille.
Mais...
machin, et on vote pour la plus belle. Ouais, et du coup, enfin voilà, les mecs se comparent avec des trucs, et donc quand j'en ai à ma disposition,
tu check quand même.
Voilà, je mesure, puis je réponds en disant oui, enfin t'es gentil, mais t'as rajouté un petit peu 2 ou 3 centimètres.
Quentin, ça fait un petit moment qu'on parle. Est-ce que tu pourrais conclure cet entretien de 2 heures? On a toujours une pensée pour la personne qui monte cet épisode, c'est-à-dire moi.
Oui, on a un peu parti dans tous les
sens. C'était très bien.
Le message que je veux faire passer, c'est je m'adresse aux hommes qui pensent ou qui sont persuadés qu'ils ont un petit sexe pour une raison ou une autre. Est-ce que c'est de la dysmorphie ? Est-ce qu'ils pensent que c'est vrai ? Je ne veux pas savoir. Je pense que tout le monde peut être heureux et épanoui dans sa sexualité et que je ne suis pas... bisounours, c'est-à-dire que je ne vais pas mentir. Je pense que quand on est en dessous de la moyenne, je pense que c'est peut-être un peu plus dur, tu vois, que le mec qui a tout. Mais comme le mec qui a tout, le mec qui est beau, grand, tu vois, qui est bien monté,
riche, qui est
en plus intelligent
santé,
et machin, lui, il n'y a pas de souci pour lui. C'est sûr que si tu es petit, t'as pas une jolie dentition, tu réduis tes chances.
Voilà, la vie est plus difficile.
Mais ça veut pas dire que tu n'as pas le droit au bonheur. Et voilà. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est soyez heureux. Et puis, le but dans la vie, c'est de trouver des partenaires qui sont intelligents, qui vont vous aimer pour ce que vous êtes. Et puis, les autres, dites-vous que c'est des gros cons. Voilà, qui n'en valent pas la peine. Et puis, pour les autres, j'aimerais juste qu'ils révisent leur jugement sur ces histoires de taille et de ne pas associer toutes ces valeurs qui, moi, je pense, sont blessantes, en fait, quoi. Peuvent faire du mal. C'est-à-dire que moi, souvent, tu vois, j'ai été dans des lieux où, par exemple, on va faire une blague ou quelqu'un va sortir quelque chose, tu vois, et en fait, il ne me connaît pas, il ne sait pas, ça se trouve, il est en train de me blesser.
Bien sûr.
Tu vois. Mais comme c'est la blagounette, machin.
Oui,
et
un
tout,
peu beauf et un peu. Ouais.
Un peu beauf, tu vois, genre tout le monde rigole et machin et tout. Et c'est dur de se lever au milieu de ça et de dire t'es gentil, mais en fait, là, tu parles de moi. Et moi, je ne trouve pas ça drôle. Parce qu'il faut des couilles, encore une belle expression. Parce que, voilà, en fait, il faut des couilles pour se lever devant tout le monde et donc, en plus, te dévoiler. C'est avouer que ça ne te fait... Si tu avoues qu'une blague sur un petit pénis ne te fait pas rire, je pense que c'est toute cette chape comme ça qui fait que la voix des hommes n'arrive pas à s'élever.
Donc
parce
il faut
que
tout
fait...
le monde contribue à ça.
Et oui, en fait, si les hommes ne viennent pas en parler... le plus possible, on restera dans cette espèce de mythe et d'entretien de cette pseudo truc de performance, grosse bite égale performance égale plaisir égale jouissance égale orgasme égale machin, alors que pas du tout quoi. Donc il faut arrêter quoi. Voilà.
Merci Quentin.
Merci.
Merci pour votre écoute et merci infiniment à Quentin pour sa confiance. Ça a été une super rencontre, vraiment un homme avec une personnalité très attachante et je suis vraiment ravie de pouvoir lui avoir donné la parole. Et j'espère vraiment que ça va résonner chez vous, que vous soyez doté d'un pénis ou pas, que vous ayez déjà eu une réflexion sur le sujet ou pas. Enfin, en tout cas, voilà, je trouve ça toujours très intéressant d'ouvrir toutes ces portes. Il est temps pour moi de vous inviter à laisser des étoiles, des avis positifs, s'il vous plaît, sur Apple Podcast et venir nous rejoindre sur Discord. Plus on est de fous, plus on rit. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On the Verge.